de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. La revue suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur. Et avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information de la voix de l'Indonésie. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le président espère le soutien parlementaire de Singapour pour renforcer la coopération entre l'Indonésie et Singapour. Le rapatriement des Rohingyas est important et doit être effectué immédiatement, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères. La mission de la Russie auprès de l'ASEAN organise une exposition de photos de la Russie cachée. 65% du marché indonésien est ouvert au moment de l'adhésion à RCEP. Septembre 2019, les exportations d'huile de palme de l'Indonésie ont augmenté de 13%. Voici le bulletin complet. Le président Joko Widodo espère que le Parlement de Singapour pourra participer au renforcement des relations de coopération entre l'Indonésie et Singapour. Ce soutien est nécessaire pour que l'engagement de renforcer la coopération entre l'Indonésie et Singapour puisse être réalisé. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président lors de la réception de l'entourage du président et des membres du Parlement de Singapour au Palais Merdeka, Jakarta. Le président Joko Widodo a accueilli le président et membres du Parlement de Singapour mercredi 20 novembre 2019 au Palais Merdeka à Jakarta. À cette occasion, le président Joko Widodo a déclaré que les gouvernements indonésiens et singapouriens s'étaient engagés à renforcer la coopération dans les domaines de l'investissement, du développement des infrastructures, du développement des ressources humaines et de l'économie numérique. Selon la ministre Retno Marsudi, cet engagement a été concrétisé lors d'une réunion de réflexion entre le président Joko Widodo et le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, en octobre dernier. Le président Joko Widodo a également souligné l'importance du soutien du Parlement singapourien à l'engagement des deux chefs d'État afin que leur coopération bilatérale puisse continuer à être améliorée.
Dan Presiden mengatakan bahwa tentunya ini adalah kerjasama dari G2G, tapi kita perlu juga dukungan.
Le Président a déclaré qu'il s'agissait bien sûr d'une coopération de G à G, mais nous avons également besoin d'un soutien au niveau parlementaire car la coopération entre les parlements doit également être soutenue et la coopération entre les jeunes doit également être renforcé. Au milieu d'une grande incertitude dans la situation mondiale, Le président a déclaré qu'il était plus important que l'Indonésie et Singapour renforcent leur coopération, y compris leur coopération économique, car l'ASEAN avait de bons espoirs. Le président Joko Widodo a accueilli le président du Parlement de Singapour, Tan Chuan Jin, et les membres du Parlement de Singapour au Palais Merdeka, Jakarta. 6 membres du Parlement de Singapour étaient présents pour accompagner le président du Parlement lors de sa réception par le président Joko Widodo. En outre, la délégation du Parlement de Singapour est également accompagnée de l'ambassadeur et ambassadeur adjoint de Singapour en Indonésie, Anil Kumar Nayar et Jonathan Han. Lors de la réunion, le président Joko Widodo a été accompagné de la ministre des Affaires étrangères Retno LP Marsudi et du secrétaire du cabinet Pramono Anung. La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a déclaré que le rapatriement des Rohingyas dans la région de Cox Bazar au Bangladesh était important à faire immédiatement. Cité par Antara, lors d'une conférence de presse au bureau de la présidence à Jakarta récemment, la ministre Retno Marsudi a expliqué que son parti considérait que le rapatriement volontaire dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité était une priorité. Parce que ça fait trop longtemps, plus d'un million de personnes sont dans une mauvaise situation à Cox Bazar. L'Indonésie a eu un dialogue avec le Bangladesh et le Myanmar à ce sujet. L'ASEAN a également décidé de créer un groupe de travail ad hoc au secrétariat de l'ASEAN afin de surveiller la mise en œuvre de l'accord de coopération. Mission russe en faveur de l'ASEAN pour organiser une exposition de photos « La Russie cachée » au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta. Lors de l'ouverture de l'exposition jeudi, l'ambassadeur de Russie auprès de l'ASEAN, Alexander Ivanov, a déclaré que l'exposition de photos visait à promouvoir les petites villes russes auprès des touristes du sud-est asiatique. Alexander Ivanov a ajouté que l'exposition de photos s'inscrivait dans le partenariat stratégique Russie-ASEAN, notamment dans le domaine socio-culturel. Le secrétariat de l'ASEAN et le comité des représentants permanents de l'ASEAN n'ont beaucoup aidé à organiser cette exposition de photos conformes au plan d'action global ASEAN-Russie, notamment dans le domaine socio-culturel. L'exposition de photos « La Russie cachée » comprenait des photos prises par l'ambassadeur Alexander Ivanov et son épouse lors d'une descente de la rivière Volga en Russie. Les photos montrent des panoramas et des attractions de plusieurs petites villes situées le long de la rivière Volga. Le thème de « La Russie cachée » a été choisi car les touristes étrangers qui visitaient la Russie ne visitaient généralement que les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Même s'il existe de nombreuses autres villes intéressantes situées non loin de Moscou. Avec cette exposition, Alexander Ivanov espère que les touristes étrangers, en particulier les Indonésiens, connaîtront mieux d'autres villes russes. Une exposition de photos cachées sur la Russie se déroule jusqu'au 13 décembre 2019. Le marché indonésien offrira jusqu'à 65% des pays partenaires lors de la mise en œuvre initiale de l'accord commercial du Partenariat économique global régional, RCEP. Dona Gultom, directrice des négociations de l'ASEAN, de la Direction générale des négociations commerciales internationales du ministère indonésien du commerce, a déclaré à Jakarta que l'ouverture du marché se ferait progressivement après la conclusion de l'accord en 2020. Comme Antara l'a cité, Donna Goutom a assuré que le gouvernement s'efforcerait autant que possible de placer un certain nombre de produits sensibles sur la liste des produits extrêmement sensibles ou même sur la liste des exemptions dans le libre-échange avec les pays partenaires. Elle a noté que 8% de la liste avait été exclue pour lesquels l'Indonésie n'avait aucun engagement d'ouvrir des marchés à tous les pays et il n'y en a que l'Indonésie ne s'ouvre pas à certains pays. L'Association indonésienne des hommes d'affaires de l'huile de palme a déclaré que les exportations d'huile de palme indonésienne en septembre 2019 avaient atteint 26 millions de tonnes, soit une hausse de 13% par rapport à août 2019. Comme l'a cité Antara, le directeur exécutif de l'Association indonésienne des hommes d'affaires de l'huile de palme, Mukti Sarjono, dans un communiqué publié mercredi à Jakarta, a déclaré que pour le marché d'exportation de septembre 2019 par rapport à août 2019, l'augmentation se produit dans tous les produits sauf le biodiesel et l'huile laurique. La forte baisse des exportations de biodiesel s'est produite sur le marché de destination de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et d'autres pays d'Asie de l'Est. Malgré tout, le volume des exportations le plus important jusqu'en septembre 2019 était toujours vers la Chine avec 4,8 millions de tonnes. Suivant l'Union européenne de 4 millions de tonnes, les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Est de 3,8 millions de tonnes, l'Afrique de 3,7 millions de tonnes et l'Inde de 3,3 millions de tonnes. Chers amis, c'était le bulletin d'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Sixième l'antenne, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre la mesure audacieuse du ministre des entreprises d'État pour amener les entreprises publiques à l'échelle mondiale. Les entreprises d'État ou BUMN ont un rôle essentiel à jouer pour améliorer l'économie indonésienne. Comme appartenant à l'État, ils sont responsables d'aider le gouvernement à faire le peuple prospère. BUMN continue de se développer d'année en année. Les données du ministère des entreprises d'État indiquent que les actifs de 143 entreprises d'État ont atteint 8 000 trillions rupiah. Les données du ministère de BUMN ont également indiqué que la contribution de BUMN au budget de l'État en 2018 s'élevait à 420 trillions rupiah. BUMN Indonésien ont des produits de qualité supérieure dans le domaine de l'aérospatial, par exemple, divers avions fabriqués par PT Dirgantara Indonesia qui ont été commercialisés à l'étranger. En outre, il existe des trains fabriqués par PT Inka et d'autres produits. Dans le secteur des infrastructures et de l'immobilier, des produits des entreprises d'État comme PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, Wijaya Karya ont pénétré dans les pays africains. Ces succès ont rendu le gouvernement à encourager les entreprises d'État à devenir non seulement de grandes entreprises du pays, mais également sur la scène mondiale. Pour atteindre ces objectifs, le président a nommé deux vice-ministres des entreprises d'État afin d'améliorer les performances de la société d'État, à savoir Kartika Wiryoatmojo, qui était auparavant président de PT Bank Mandiri TBK, et Budi Gunadi Sadikin, qui était auparavant directeur de PT Indonesia Asahan Aluminium. Le ministère de BUMN est le seul ministère de l'administration Joko Widodo qui compte deux vice-ministres. Bien entendu, l'objectif est que les entreprises d'État deviennent de grandes entreprises ayant une réputation mondiale. Le président Joko Widodo a demandé aux ministres et aux vice-ministres de travailler ensemble pour donner aux entreprises d'État une réputation mondiale.
En réalisant la vision et la mission du président Joko Widodo, le ministre des Entreprises d'État, Erick Thohir, a pris une mesure audacieuse en rafraîchissant la direction bureaucratique du ministère des Entreprises d'État. 7 échelons 1 sont déplacés à de nouveaux postes dans diverses entreprises d'État. Cela a été fait dans le but d'amener BUMN à rivaliser en tant qu'acteur mondial. Bien entendu, ces mesures audacieuses du ministère des Entreprises d'État devraient être soutenues et attendues pour les résultats. On espère qu'à l'avenir, le ministère des Entreprises d'État continuera d'être cohérent en prenant des mesures audacieuses, sans intervention politique. Une intervention politique perturbe la performance de BUMN. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 novembre. Le 22 novembre 1963, l'assassinat du président américain John F. Kennedy à Dallas. Le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy fut tué le 22 novembre 1963 par 3 coups de feu alors qu'il traversait le centre-ville de Dallas dans une décapotable Cadillac. Après la fusillade, le président Kennedy a été immédiatement conduit à l'hôpital Parkland Memorial à Dallas pour demander de l'aide, mais il est décédé 30 minutes plus tard. Le président John F. Kennedy est décédé à l'âge de 46 ans. Jusqu'à présent, le motif de l'assassinat n'est toujours pas clair, et encore moins l'assassin présumé du président a également été exécuté par les gardes présidentiels. Le 22 novembre 1986, le boxeur Mike Tyson est devenu le plus jeune champion de boxe poids lourd du monde. Après avoir fêté ses 20 ans, le boxeur poids lourd américain Mike Tyson a remporté le 22 novembre 1986 la version de boxe poids lourd du championnat du monde à Las Vegas. Il a battu le champion canadien en titre Trevor Burbick par knockout au deuxième tour. Cette victoire a permis à Mike Tyson de graver dans l'histoire comme le plus jeune champion du monde des poids lourds. La vie de Mike Tyson était pleine de rebondissements et plusieurs affaires judiciaires impliquées. En 1995, après avoir été libéré de prison à Indiana à la suite d'une affaire de viol, Mike Tyson avait déclaré sa conversion à l'islam et avait changé son nom pour Malik Abdul Aziz. Après avoir été déclaré en faillite par le tribunal en août 2003, Mike Tyson a finalement démissionné du ring de boxe mondial en 2005. Le 22 novembre 2002, l'Indonésie et IFRC ont signé l'accord de coopération humanitaire. Le gouvernement indonésien, représenté par le ministère des Affaires étrangères, a signé une coopération dans le domaine de l'humanité avec International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, basée à Genève, en Suisse, et a ouvert une représentation d'IFRC en Indonésie. L'IFRC, en coopération avec la Croix-Rouge indonésienne PMI, réalise des efforts pour améliorer et développer les programmes de préparation à tous les niveaux d'intervention en cas de catastrophe naturelle ou humanitaire, y compris les services de santé, sans distinction de citoyenneté, de race, de croyance ou de classe politique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Yeah. Oh. Ku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Bersama kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lemah, lelah dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan jalanan ini. Tak usah kita pikirkan untuk jalanan ini, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Pegang tanganku bila ku lelah. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan.
C'était une chanson intitulée « Vrai ami » chantée par Sulvip. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique « Mon Indonésie ».
Chers auditeurs, voici donc « Mon Indonésie » et pour le titre « L'avion CN-235-220 est officiellement exporté vers le Népal. L'avion CN-235-220, fabriqué par PT Dirgantara Indonesia, a officiellement volé dans le ciel de l'Himalaya au Népal mardi le 19 novembre dernier, après le dernier vol d'acceptation du gouvernement indonésien à l'armée népalaise. L'ambassadrice d'Indonésie au Bangladesh et au Népal, Rina Sumarno, a représenté le gouvernement indonésien lors de la cérémonie de transfert de l'avion. Dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Dhaka, l'ambassadrice Rina a déclaré mardi que l'exportation d'aéronefs CN-235-220 vers le Népal devait se poursuivre. Selon elle, l'exportation des avions CN-235-220 est la preuve que le potentiel du marché non traditionnel du Népal, en particulier pour les industries stratégiques indonésiennes, est très grand. C'est la première fois que PT Dirgantara Indonesia exporte des avions vers le Népal après la signature de contrat relatif à l'acquisition d'une unité de type avion de transport militaire le 16 juin 2017. L'avion CN-235-220 qui sera utilisé par l'armée népalaise est très spécial car il dispose de 5 configurations qui peuvent être changées en peu de temps, à savoir des configurations pour le transport de troupes ou de parachutistes, des configurations pour des personnes très importantes, VIP, des configurations pour l'évacuation médicale, des avions de passagers et des cargaisons. Cet avion polyvalent est également très approprié pour une utilisation au Népal qui a des contours géographiques montagneux. L'avion CN-235-220 arrive au Népal depuis le 2 novembre 2019. A également subi une série de processus d'inspection après la livraison avant d'être officiellement transféré à l'armée népalaise. L'ambassadrice Rina Sumarno a souligné que l'exportation réussie des aéronefs CN-235-220 réalisée par PT Dirgantara Indonesia devrait encourager d'autres entreprises d'État indonésiennes à s'intéresser au potentiel du marché népalais. Rina expliquait qu'actuellement, le Népal développe activement les divers domaines, notamment les infrastructures routières, les chemins de fer, la construction de nouveaux aéroports internationaux et divers projets d'infrastructures touristiques. C'est une opportunité à utiliser par les entreprises d'État indonésiennes. En outre, Rina a affirmé que l'ambassade d'Indonésie a continué à encourager les efforts visant à introduire les produits indonésiens sur le marché népalais, à travers le renforcement de la diplomatie économique. Le président-directeur de PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, a précédemment déclaré que l'utilisation d'avions de la production d'Indonésie par l'armée de terre népalaise renforçait encore la confiance du monde dans le travail des Indonésiens. Le Népal est le 23e pays au monde et le 2e pays en Asie du Sud à utiliser CN-235 après le Pakistan. Elle a affirmé que la vente d'aéronefs CN-235 faisait partie d'un effort conjoint visant à renforcer la promotion des industries stratégiques nationales afin d'être concurrentielle sur le marché international. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Bersandar menikmati bintang berpijar sampai nanti, sampai kita bertemu kembali sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan, aku merasa
angkasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersau, aku ingin jauh padamu, aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntun. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh dari yang sudah-sudah. Hanya kaulah arti.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Phare » chantée par Kunto Aji. Et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé L'île de Bokori dans la province de Sulawesi du Sud-Est. L'île de Bokori est une belle petite île située dans le quartier de Suropia, Sulawesi du Sud-Est. L'emplacement de cette île est en face du cap Suropia. Cette île était autrefois habitée par l'ethnie de Bajo. L'ethnie de Bajo ou l'ethnie de Bajau, qui font partie des populations qu'on appelle nomades de la mer. Les Bajo se déplacent alors à un autre endroit. L'île de Bokori est célébrée pour le long sable blanc qui est impressionnant aussi les touristes. En outre, sur l'île, il y a aussi un charme. Lorsque les eaux de mer étaient la marée haute, le charme sera rempli des eaux de mer, de sorte qu'il ressemble à un lac au milieu de la mer. La beauté, la sérénité et la mer bleue combinées avec du sable blanc font de cette plage comme l'attraction touristique excellente. Administrativement, l'île de Bokori inclut dans la région de Konawe. Il y a deux façons qui peuvent être prises pour se rendre sur cette île. La première façon est d'utiliser le transport maritime du port de Kendari à l'île de Bokori directement, tandis que la deuxième façon consiste à utiliser le transport terrestre de Kendari au village de Bajo. Du centre-ville au hameau de Bajo prend environ 30 minutes. Ici, il y a beaucoup de gens du pays fournissent des services pour vous amener à l'île de Bokori. Le tarif est aussi assez bon marché, environ 30 000 rupiah par personne. Vous avez un service de navette. Concernant l'état de la route, vous ne devez pas vous inquiéter parce que maintenant, toutes les routes qui sont passées étaient pavées. L'accès à l'île de Bokori peut être atteint en utilisant des bateaux loués. que l'on trouve souvent au point de passage du port. Il y a trois points de passage du port dont l'un se trouve dans le village de Bajo. Du centre-ville de Kendari à cet endroit prend environ 3 minutes en voiture ou en véhicule à deux roues. Pour traverser vers l'île de Bokori, vous pouvez utiliser un bateau à moteur équipé d'une bouée d'une capacité maximale de 15 personnes. La location de bateau coûte environ 300 000 rupiah aller-retour. Si vous louez avec un groupe, vous payez seulement 20 000 rupiah par personne. À leur arrivée sur l'île de Bokori en payant 10 000 rupiah, les visiteurs peuvent se déplacer autant qu'ils le souhaitent dans cette région. L'île de Bokori est également un endroit idéal pour nager. Mais si vous voulez nager plus loin au milieu de la mer, vous devriez faire attention afin de ne pas marcher sur les oursins. Pour ceux d'entre vous qui ont un passe-temps de pêcher, vous pouvez louer un bateau de pêche et vous pouvez pêcher autour de l'île, ou il pourrait être juste comme il a pagayé autour de l'île, ou vous pouvez aussi simplement pagayer autour de l'île. Pour ceux d'entre vous qui aiment la photographie, l'île est également adaptée pour les objets de la prise de vue, notamment avec les magnifiques couchers de soleil. Si vous avez l'occasion de visiter l'île de Bokori, il y a quelques conseils qui devraient être pris en considération, à savoir si le temps est ensoleillé, vous pouvez partir assez tard parce que vous pourriez voir un beau coucher de soleil. En outre, sur l'île de Bokori, vous pouvez aussi passer la nuit, car il y a déjà des chalets, et surtout ne pas oublier d'apporter un crème solaire, le parapluie et les lunettes de soleil. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik. Berlarian ke sana, kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba,
cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Istriku.
Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Contra, chantée par Payung Teduh. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique L'Indonésie en couleur.
Bonsoir, chers auditeurs, vous écoutez toujours The Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. De l'Indonésie au monde. Ce soir, avec moi Audrey, et on se rencontre encore dans le programme L'Indonésie en couleur. Et vous allez écouter Festival du film documentaire 2019. Chers amis, le Festival du film documentaire 2019 a de nouveaux lieux. Le 19e Festival international de classe se tiendra du 1er au 7 décembre et portera sur le thème de la santé mentale, le sentiment de réalité, l'ethnographie sensorielle et le paysage. La responsable du Festival de films documentaires, Kurni Ayuda, a déclaré que les films projetés fourniraient une perspective, des perspectives de la santé mentale avec une perspective différente. Comme les années précédentes, la FFD présente cette année divers programmes, dont des programmes de projection de films, des compétitions de films, des discussions et des activités éducatives. Lieu d'interaction entre militantes du cinéma universitaire, artistes de terrain, programmeurs, distributeurs et étudiants. Chers amis, dans ce festival, 286 films sont entrés dans le comité. Après avoir été sélectionné, il y avait 26 films. Les films sont diffusés en catégories, notamment les documentaires longues indonésiens, les documentaires longues internationaux, les catégories des documentaires courts et les étudiants. Au moins, l'agenda de cette année comprend 15 programmes présentés dans le FFD. De 2019, dont Concurrence, Perspective, Spectre, Focus sur le Canada, Focus sur la Corée, Écran large, Écran de la violence, etc. Thank you. fondé en 2002 à Yogyakarta, le Festival du film documentaire FFD est le premier festival de documentaire en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Il se concentre sur le développement du documentaire en tant que moyen d'expression et écosystème de la connaissance par le biais d'expositions, de programmes d'éducation et d'archivage. Le Festival du film documentaire essaie toujours de placer les questions sociales factuelles au centre de ses préoccupations. Même comme un pont entre les réalisateurs de documentaires, les réalisateurs professionnels et un public plus large, dans le but d'améliorer la qualité et la quantité des films documentaires en Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur sur Festival du film documentaire FFD 2019. On se rencontrera demain avec le sujet différent. Merci beaucoup. Au revoir.
Coba untuk meluangkan waktu yang telah didambakan, berlari dengan senyuman. Langkah-langkah tanpa lelah mengantarkan aku ke sana. Bersembunyi mencoba untuk meluangkan waktu yang telah didambakan, berlari dengan senyuman. Dan kabar.
jauh lagi bersama. Semua angan dan keberanian yang sebelumnya setia tetap bersembunyi dan berkelana. Lebih jauh lagi bersama. Semua angan dan keberanian yang sebelumnya setia tetap bersembunyi. Bersembunyi.
Merci de ta fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la quatrième chanson intitulée Erer, chanté par Senar Sinja. Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Et avant de terminer cette émission, voici Magazine Musical.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Et ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Java occidentale intitulée Lingkung Lembur, Sisindiran, Tokechang et Chingchangkling, chantée par Elva Singer. Chers amis, Elva Singer est un groupe vocal indonésien formé par la compositrice Elva Sesioria. Les membres actuels du groupe sont Agus Wisman, Yana Julio, Uchi Nurul et Lita Zen. Elva Singer a été créée en 1978. Elva Singer a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux. Le groupe a effectué des tournées dans divers pays en tant qu'ambassadeur d'Indonésie au North Jazz Festival aux Pays-Bas et au Thailand Jazz Festival en 1997. En 2015, le groupe a entamé une tournée dans plusieurs villes des États-Unis, notamment à Los Angeles, New York et Philadelphie, et Washington DC avec la maison d'Anclon. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Lingkung Lembur, Sisindiran, Tokechang et Chingchangkling, chanté par Elva Singer. Bonne écoute.
Tuh di lamping pagunungan, tuh di pasir kubuntukan, tempat sirna pani isan, lingkung lembur padusunan. Ayam mangsa kampung jadi kota di sisi pamungkungan jamak nuti dayang ngarungsi. Kampung-kampung geget bir di kota sisi gunung adadak segala ayam.
Ayah listrik di mana sih kita? Jangan takut.
Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, cette émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.